pia kwa salama. Hata tukitenga na kimwili, kule Zayuni tutaonana. Katika kazi yake Bwana,
sasa kwa heri nyote,
bakia kwa salama.
Fanyeni bidii mwenzangu,
katika kazi yake Bwana,
sasa kwa heri nyote,
bakia kwa salama. Hata tukitenga na kimwili, kule Zayuni tutaonana. Tukitenga na kimwili, kule Zayuni tutaonana.
Fanyeni bidii mwenzangu,
katika kazi yake Bwana,
sasa kwa heri nyote,
bakia kwa salama.
Fanyeni bidii mwenzangu,
katika kazi yake Bwana,
sasa kwa heri nyote,
bakia kwa salama. Hata tukitenga na kimwili, kule Zayuni tutaonana. Hata tukitenga na kimwili, kule Zayuni tutaonana.
Fanyeni bidii mwenzangu,
katika kazi yake Bwana,
sasa kwa heri nyote,
bakia kwa salama.
Fanyeni bidii mwenzangu,
katika kazi yake Bwana,
sasa kwa heri nyote,
bakia kwa salama. Hata tukitenga na kimwili, kule Zayuni tutaonana. Hata tukitenga na kimwili, kule Zayuni tutaonana.
Fanyeni bidii mwenzangu,
katika kazi yake Bwana,
sasa kwa heri nyote,
bakia kwa salama. Hata tukitenga na kimwili, kule Zayuni tutaonana. Hata tukitenga na kimwili, kule Zayuni tutaonana.
Fanyeni bidii mwenzangu,
katika kazi yake Bwana,
sasa kwa heri nyote,
bakia kwa salama. Hata tukitenga na kimwili, kule Zayuni tutaonana. Hata tukitenga na kimwili, kule Zayuni tutaonana.
Salutations à vous tous, et j'espère que vous passez une merveilleuse fête des tabernacles. Nous nous réunissons tous dans différents sites de la fête de par le monde. Et tandis que nous adorons Dieu ensemble, et que la parole de Dieu nous est enseignée, nous apprenons tous en tant que frères et sœurs à nous connaître. Cette année, nous vous faisons un don spécial à travers ce film de la fête. Nous vous offrons l'occasion de faire connaissance avec nos frères et sœurs dans une région du monde que beaucoup d'entre nous n'ont jamais visitée. Cette région est proche et chère à mon cœur depuis l'époque où je servais au Royaume-Uni et en Europe, et lors de mes nombreux voyages depuis. Cette région est l'Afrique. Nous avons des frères et sœurs sur tout le continent africain, et c'est une région gigantesque. Dans ce film, nous aimerions vous donner l'occasion de mieux connaître nos frères et sœurs là-bas. Nous voulons aussi vous donner un aperçu de ce qui se passe, en fait, dans l'œuvre de Dieu en Afrique depuis des décennies. Pour guider notre visite dans l'œuvre de l'Église du Dieu vivant en Afrique, j'aimerais vous présenter un homme avec qui je travaille depuis fort longtemps et qui a passé de nombreuses années à servir nos frères et sœurs en Afrique, Monsieur Peter Nathan. Bonjour mes frères et sœurs, où que vous célébriez la fête des tabernacles de l'Éternel cette année. Bienvenue, ou comme on dirait en Swahili, Karibu Sana. J'aimerais vous donner un aperçu, une vue d'ensemble, du travail réalisé sur le continent africain. Il s'agira pour partie d'une leçon de géographie. Peut-être que la meilleure façon d'introduire le sujet de l'œuvre de Dieu en Afrique au cours du dernier demi-siècle c'est celle de vous emmener au Kenya, la même où M. Armstrong prit la parole en juin 1975. Actuellement, je me tiens devant l'emblématique centre de conférences Kenyatta dans le centre-ville de Nairobi, au Kenya. En juin 1975, à cet endroit précis derrière moi, M. Armstrong prêcha l'évangile du royaume de Dieu à venir à quelques 1500 Kenyans lors de 3 soirées consécutives. Aujourd'hui, je suis accompagné de 3 hommes qui faisaient partie de l'auditoire à cette occasion. Nous avons Thomas Ketenji en fauteuil roulant, nous avons son pilote préféré, Pascal Boroki, et enfin Steven Mugambi. En 1975, ils voyagèrent quelques 300 km depuis chez eux sur les pentes nord du mont Kenya pour venir entendre M. Armstrong lors de ces 3 soirées. Ils forment toujours le noyau de la congrégation des Kibiricha, dans le district de Meru au Kenya, servant fidèlement leur Dieu quelques 47 ans plus tard.
My name is Thomas Ketenji, one of the members in Kibiricha Living Church of God. And what I can confirm to brethren at this feast is that when the word of God goes out, it doesn't go empty, because since I was called back in 1975, I'm still in God's church and still growing in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ because of the teachings, literature, and whatever God has provided for his people to learn from. Those who are hearing God's word, let's persevere and be in God's church waiting for the coming of Christ.
En vous présentant l'Afrique, j'aimerais me concentrer sur la promesse faite dans Ésaïe chapitre 55, dans le contexte plus large de l'Afrique et de ce que notre Père accomplit là. C'est une promesse merveilleuse qui se trouve dans Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11. Elle est représentée sous forme de pluie et d'abondance des récoltes, ce que les Africains comprennent fort bien. Notre Père utilise cette métaphore pour décrire comment sa parole est productive. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je vous pose une question. Comment Dieu dispense-t-il la parole qui sort de sa bouche? La prédication de M. Armstrong au Kenya est un exemple. Notre Père se sert de nous, vous et moi, de simples êtres humains, pour prêcher son évangile, qui produit encore à ce jour beaucoup de fruits dans une grande partie de l'Afrique. Mais voyons le continent africain pour commencer. L'Afrique représente une immense masse terrestre. Elle n'est pas vraiment bien représentée sur les surfaces planes de la map monde que nous utilisons si fréquemment. Mais regardez le globe terrestre pour avoir une meilleure perspective. En comparant d'autres masses terrestres, vous obtiendrez une vue plus appropriée. Pour mettre l'Afrique en perspective, les États-Unis contigus, la Chine, l'Inde, l'Europe occidentale, l'Europe de l'Est, le Japon et d'autres pays tiendraient tous dans le continent africain avec encore de la place à revendre. Comme vous pouvez le constater, l'Afrique s'étend sur quelques 30 millions de kilomètres carrés et comprend 59 pays parlant quelques 2000 langues et dialectes. Avec une population de 1,3 milliard d'habitants, elle représente 17% de la population mondiale. Pourtant, l'Afrique en tant que continent représente 20% de la surface terrestre du globe. Voici un fait surprenant. Le désert du Sahara représente à lui seul 30% de l'Afrique, un peu plus de 6% de la surface terrestre du monde. J'aime à penser que le désert du Sahara sera potentiellement le plus grand jardin botanique de Dieu. Pour vous donner une autre perspective, les États-Unis contigus pourraient facilement tenir dans le désert du Sahara. Laissez-moi vous poser quelques questions. Alors, qu'est-ce que Dieu accomplit ici, en Afrique? Qu'accomplit-il avec son Église dans le monde entier? Qu'accomplit-il dans votre vie et dans la mienne? 20 ans avant que ces hommes n'entendent M. Armstrong au Kenya, sa voix était déjà sur les ondes d'Afrique du Sud, proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu depuis la toute première station de radio commerciale d'Afrique du Sud. C'était en juin 1955. Radio Lorenzo Marquez, ou Radio LM comme on l'appelait, émettait depuis l'actuelle capitale du Mozambique. Radio LM offrait une porte ouverte pour atteindre les centres de la population d'Afrique centrale et australe. Puis, en 1958, Radio Elizabethville, ou Radio Lubumbashi, comme nous la connaissons aujourd'hui, située sur la ceinture de cuivre à la frontière congolaise et zambienne, fut ajoutée et permit d'émettre la voix de M. Armstrong de manière encore plus puissante aux populations d'Afrique centrale. En 1962, les stations de radiodiffusion nigériane occidentale de l'état de Lagos et d'Ibadan, au Nigeria, ont commencé à émettre l'émission en Afrique de l'Ouest. Des publicités dans des revues européennes telles que le Reader's Digest se sont retrouvées entre les mains de lecteurs africains, ce qui fit grimper le taux de réponse. Les fruits ont rapidement suivi. En 1961, messieurs Roderick Meredith et Raymond Meckner effectuèrent une tournée de baptême dans toute l'Afrique centrale et australe, baptisant des membres tant en Zambie qu'en Afrique du Sud. Je me souviens avoir demandé plusieurs fois à M. Meredith de me raconter cette tournée. Un nom est resté dans son esprit, celui de M. Mwambula de la Zambie, le tout premier noir africain baptisé lors de cette tournée. Comme le disait Carlos, notre chauffeur de confiance préféré,
Mr. Nathan, can you just imagine?
Oui, je m'en rappelle effectivement, Carlos. J'ai même eu le privilège de rencontrer M. Mwambula lors d'une visite en Zambie en 1976, soit 15 ans plus tard. Il était difficile d'imaginer qu'un début aussi humble produirait autant de fruits. M. Meredith se réjouissait de voir un Africain solitaire faire partie de l'Église de Dieu. En mars 1963, un bureau fut ouvert à Johannesburg pour gérer les réponses suite aux émissions radiophoniques et prendre soin des membres avec une congrégation commencée à Johannesburg et ensuite à Durban. L'Afrique du Sud est devenue un point d'ancrage et un tremplin vers le reste de l'Afrique anglophone. Le Botswana, la Namibie, le Zimbabwe, le Malawi, l'île Maurice, le Kenya, la Zambie. Le bureau sud-africain fut puissamment utilisé pour permettre à la parole de continuer à sortir de la bouche de Dieu vers le sud, le centre et l'est de l'Afrique, et continue à fournir ce soutien jusqu'à ce jour. Simon Mutama, pasteur de secteur à Nairobi, nous fait part de cette croissance de l'Église au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.
Greetings, brethren, wherever you are in the world. My name is Simon Mutama. I pastor the Living Church of God in Kenya, Uganda, and Tanzania. I wish to let you know the growth of the church since 2005. Since that time, we had 50 brethren in attendance. Today, 2002, we have 457. That is a tremendous growth that God has given unto us. So we thank the headquarters that they continue providing us with the material that we may continue growing and prosper. May God bless you all and have a wonderful Feast of Tabernacle 2002. Kwa heri ya kuonana.
Les réponses de l'Afrique de l'Ouest étaient traitées à l'époque par le Royaume-Uni. Ce n'est qu'au début de 1971 que nous avions pu faire une tournée de baptême dans la région. Les personnes qui répondaient aux émissions radiophoniques et à la pure vérité devaient compter sur la correspondance personnelle, le courrier postal, comme nous l'appelons. Personne n'avait de téléphone portable et Internet n'existait pas encore. Nous attendions et prions pour que Dieu permette la croissance. Cette première tournée de baptême en 1971 ne put se faire qu'au Ghana et au Cameroun. Le Nigeria, alors en proie à la guerre civile, dut attendre 1973 pour qu'une tournée de baptême soit autorisée dans ce pays. C'était dangereux et difficile. Néanmoins, quelques abonnés nigérians déterminés traversèrent trois frontières de l'est du Nigeria au Ghana pour rencontrer le ministère afin de se faire baptiser. Voyager en Afrique par la route était éreintant. Les routes étaient étroites et criblées d'ornières. Les bus, les matatus, taxis collectifs, et les taxis de place étaient bondés de personnes et parfois d'animaux, tous sans climatisation. Et aujourd'hui, les voyages ne sont pas si différents. Indépendamment des défis, la parole de Dieu va de l'avant, produisant du fruit. Mais ce que nous avons vu n'était pas tout ce qui se passait. Lors d'une conférence ministérielle en mars dernier, M. Richard Ames a fait une déclaration pertinente sur la façon dont Dieu travaille. Nos modestes efforts sont démultipliés parce que le Christ opère d'une manière que nous ne soupçonnons même pas, en atteignant toutes sortes de personnes dans divers pays du monde. C'est donc fort encourageant. Et cela me rappelle tout simplement la promesse de Matthieu chapitre 28 où Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et prêchez l'évangile au monde en tant que témoignage. » Pourquoi ce commentaire de M. Ames est-il si important? Laissez-moi vous donner deux exemples de la façon dont cela s'est produit en Afrique. Parallèlement au travail que M. Armstrong commença avec les émissions radiophoniques, il y eut également les efforts d'un de ses contemporains, M. Andrew Duggar. Si vous lisez l'autobiographie de M. Armstrong, il y fait mention de M. Andrew Duggar. C'était l'un des rares dirigeants au sein de l'Église de Dieu du septième jour qui s'identifiait avec l'œuvre que Dieu accomplissait par l'intermédiaire de M. Armstrong. Comme ce dernier, il était profondément engagé dans la prédication de l'Évangile au monde entier. Mais contrairement à M. Armstrong, il n'était pas un homme de médias, mais plutôt un homme de lettres. Au début des années 1950, il émigra des États-Unis en Israël, où il y établit l'Église de Dieu de Jérusalem du septième jour, croyant qu'il devait prêcher la bonne nouvelle à partir de Sion. L'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale étant relativement proches de Jérusalem, elles sont devenues un terrain propice pour sa littérature. Il est décédé en 1975 à l'âge de 89 ans. Par la suite, les congrégations qui furent établies au Kenya et dans d'autres régions se séparèrent à cause de rivalités intertribales. Et le siège central cessa de fournir un leadership et des enseignements à ses frères et sœurs africains. Au cours des deux dernières décennies, nous avons constaté que de nombreux groupes et anciens de l'Église de Jérusalem du septième jour gravitent autour de nous. Au Kenya, Ephraim Abok était un surintendant de district pour le Kenya occidental dans l'Église de Dieu de Jérusalem du septième jour. Ephraim avait grandi dans un environnement ayant de fortes attaches avec les adventistes du septième jour, mais à cause de la confusion qui régnait au sein du christianisme, il aspirait à devenir musulman. Jusqu'à ce qu'il entende un message donné dans sa communauté sur les fêtes de Dieu. C'est ce qui l'attira vers l'église de Jérusalem du septième jour. Par la suite, M. Abok, avec 7 anciens locaux et des congrégations totalisant plus de 300 personnes, nous sollicitèrent et rejoignirent l'église du Dieu vivant. Aujourd'hui, Ephraim Abok est pasteur de secteur de l'église du Dieu vivant. Il vit actuellement à Kendu Bay, sur les rives du lac Victoria. Il décrit son premier contact avec l'église de Jérusalem du septième jour.
I had my first contact with Jerusalem Church of God Seventh Day in December 1978. I listened to a presentation from a man about the feast day of God. He gave me literature like this magazine. This is a magazine called Judah. I still have this copy from 1975. After reading and I listened to them, I was crying. It was the same Bible, but I saw a new information. I felt that God was calling me, so I went to attend the Passover in 1979. I was baptized before the Passover and took the Passover. I was rejected by my own congregation, by my own church, in the building that I own, but I continue to learn and keep the feast festivals. 1986, I was ordained a pastor in Jerusalem Church of God Seventh Day, founded by Andrew Dagger. I became the deputy overseer of all Western Kenya with 50 churches and almost 1,000 people, including 50 elders. Over time, we had a tribal disagreement, and I was given a mandate to find a new church to fellowship with. This is when I believe that God accomplished something very great. I saw Meabsungu, a white man with a flat tire. He turned out to be a minister in the Church of God. I told him about my mandate, which made us come together as brothers. I also met Mr. Peter Nathan. At this time, he also my brother. Today, I'm still responsible for Western Kenya in the Living Church of God, serving 11 congregations and over 600 people. God continue to call me to call more people in Kenya, and we are all perspiring of God's word. I hope that you all have great feast and tabernacle for Erokamano Ahinya.
Oui, il nous arrive aussi de transpirer quand l'œuvre de Dieu prospère. Monsieur Abok est un pasteur engagé, reconnu et profondément respecté dans cette région de l'ouest du Kenya. Au cours des deux dernières décennies, j'ai rendu visite à M. Abok et à sa famille et j'ai appris à respecter profondément son dévouement et son adhésion au chemin de vie divin. Plus au sud, au Burundi francophone, un membre de l'église de Jérusalem du septième jour s'est mis en quête de trouver la vérité. Il est à présent un ancien local de l'église du Dieu vivant. Juvenal Karibwami parle couramment le Kirundi, la langue locale des peuples du Burundi, ainsi que le français, l'anglais, le swahili et le roumain, car il a fait des études universitaires à Bucarest, en Roumanie. Après Juvenal, deux autres anciens locaux de l'Église de Dieu de Jérusalem du septième jour nous sollicitèrent. Ils célèbrent la fête avec nous depuis 2016. Et en 2021, nous avons pu organiser des sites de fête au Burundi dans leur propre région. Par la suite, de nombreux autres anciens locaux et congrégations demandèrent à se joindre à nous. Il est intéressant de noter que Juvenal Karibwami connaissait la plupart de ses dirigeants dans l'Église de Dieu de Jérusalem du septième jour. Il faut ajouter que ce ne sont pas toutes des personnes provenant de l'Église de Jérusalem du septième jour qui cherchèrent à se joindre à nous. Des divisions se sont produites au sein de cette entité, séparant d'anciennes congrégations et même des membres de la famille. Ceux qui nous rejoignirent étaient convaincus de la décision qu'ils avaient prise. Désireux d'approfondir leur connaissance du plan divin et croître dans la compréhension. Certes, ces personnes entendirent la parole de Dieu d'une source différente, mais elles reconnurent également le message que nous enseignons et cherchaient un leadership et des conseils spirituels afin de pouvoir croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, comme Pierre l'indique. Je vais laisser M. Rhys Ellis présenter la remarquable façon dont Dieu œuvre d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. M. Ellis supervise les congrégations francophones à travers l'Afrique. Il a une histoire très intéressante à partager avec nous. Merci, Monsieur Nathan, et bonjour à tous les membres du monde entier, en vous souhaitant à tous une fabuleuse fête. Il y a environ 3 ans, j'ai rencontré Eli, un jeune homme à Lomé, au Togo, un pays situé à l'est du Ghana, sur la côte ouest de l'Afrique. Au cours de notre conversation, il mentionna que le nom de son église était Église du Dieu vivant, exactement le même nom que celui de nos congrégations dans les régions francophones. Lorsque le jeune homme Eli mentionna le nom de M. Armstrong, vous pouvez imaginer ma stupéfaction. Je devais rencontrer leur leader qui espérait une telle rencontre. Le lendemain, nous avons donc voyagé pendant 6 heures vers le nord jusqu'à Badou, sur les hauts plateaux du Togo. C'est là que j'ai rencontré Jérémy, directeur d'école et superviseur des congrégations francophones du Togo et du Bénin. Il m'a parlé des origines de l'Église. Le fondateur était un catholique romain qui, en 1965, ayant reçu un exemplaire de la pure vérité, entama la lecture des revues et des brochures, ainsi que l'étude du cours de Bible par correspondance. Francis Hoyer, fils du fondateur, m'a donné plus de détails sur ce qui s'était passé avec son père. Son père communiquait souvent par courrier avec notre département de correspondance personnelle, croyant qu'il recevait ses réponses directement de M. Armstrong. Il voulait vraiment comprendre la parole de Dieu. En 1967, il commença une église au Ghana en prêchant à partir de notre ancienne littérature. Il écrivit à M. Armstrong et suggéra que M. Armstrong prenne en charge la congrégation qu'il avait formée, ce à quoi il lui fut répondu que s'il avait une congrégation de 50 personnes qui versait fidèlement la dîme, il n'aurait pas besoin de soutien. Encouragé par cette réponse, cette congrégation s'étendit au Togo et au Bénin voisin au cours des années suivantes. Ils basèrent leurs enseignements sur ce qu'ils avaient appris de M. Armstrong. Aujourd'hui, ce groupe a une assistance reconnue d'environ 1500 personnes chaque sabbat, soit 500 au Ghana et 1000 autres au Togo, avec quelques personnes au Bénin et, plus intéressant, au Burkina Faso, qui est un pays musulman. Nous leur fournissons à présent de la littérature en anglais et en français pour leur permettre de poursuivre la prédication de l'Évangile dans leur région du monde. nous avons parlé principalement de la prédication de l'Évangile en anglais. Et nous avons fait quelques incursions dans les régions francophones comme le Burundi et le Togo. Mais voici un fait intéressant. Saviez-vous que l'Afrique représente plus de 70% de la population francophone totale du monde? On estime qu'il y a plus de 150 millions de francophones en Afrique. Il existe donc une grande opportunité en français sur ce continent. En fait, l'une de nos plus grandes congrégations en Afrique est francophone. Kinshasa, au Congo, avec une assistance de plus de 100 personnes. La croissance dans ce domaine s'est faite essentiellement par le bouche à oreille. Les Africains francophones entendirent M. Dibar Apartian à la radio ou découvrirent la revue en France, voire dans d'autres pays européens. Et tout comme ceux qui répondirent à Andrew Duggar, au Burundi et au Congo, ils nous sollicitèrent afin d'obtenir un leadership spirituel. Aujourd'hui, nous avons d'autres opportunités de prêcher l'Évangile. Laissez-moi vous donner un exemple tout à fait récent qui m'a été communiqué juste avant que nous enregistrions ce film. Notre tableau blanc intitulé « Les trois cieux dont parle la Bible », traduit en français, a généré un nombre très respectable de 34 000 vues au cours des deux premières semaines de diffusion sur YouTube. Sur ces 34 000 vues, 27% proviennent de 17 nations francophones d'Afrique. Dieu nous a donc donné les outils et les ressources nécessaires pour participer à l'accomplissement de la grande mission décrite dans Matthieu chapitre 28 et au verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous savons que notre appel exige de nombreux efforts. L'Église du Dieu vivant est activement impliquée dans la prédication d'un message d'avertissement en tant que sentinelle. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'en plus de ceux du Ghana et du Togo dont M. Ellis parlait plus tôt, nous avons actuellement environ 2000 autres personnes qui célèbrent la fête des tabernacles dans 17 sites à travers tout le continent. Pour conclure, je voudrais encore partager avec vous quelques cartes géographiques. Et pourquoi pas, n'est-ce pas aussi une leçon de géographie? Sur cette première carte, le vert montre les pays avec des congrégations et des membres. Évidemment, dans le nord, il y a une grande zone blanche. Mais vous remarquerez que, dans le sud, nous avons deux zones blanches sur la carte. Ce sont principalement des nations lusophones, telles que l'Angola sur le côté gauche à l'ouest et le Mozambique à l'est. L'Église a récemment produit une gamme complète de littérature en portugais, qui peut maintenant être proposée en Angola et au Mozambique. Au nord, notre Père a un autre défi. Le monde islamique. Ce défi nous concernera-t-il? Si l'Évangile doit être prêché au monde entier, il doit y avoir aussi un témoignage pour le monde islamique. Nous avons déjà des membres originaires d'Égypte, du Sénégal et d'autres nations islamiques dans diverses congrégations en Europe et ailleurs. Mais quelle est l'ampleur du témoignage que notre Père souhaite que nous rendions à ces nations? Étonnamment, notre Père semble appeler certaines personnes au Burkina Faso, un état essentiellement islamique. Pourquoi est-ce étonnant? Le Burkina Faso est une société diversifiée sur le plan religieux, l'islam étant la religion dominante. Selon une estimation récente du centre de recherche Pew, près de 63% de la population adhère à l'islam. Seuls 22% de la population pratique le christianisme, tandis que 15% pratique l'animisme, la religion traditionnelle de l'Afrique. Au nom des membres de l'Église en Afrique, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien continu, vos prières et votre générosité envers l'Église du Dieu vivant. J'espère que cet aperçu avec la leçon de géographie vous a été utile et fort inspirant. Que faisons-nous aujourd'hui pour répandre la parole de Dieu? Eh bien, nous diffusons l'émission du Monde de Demain sur plusieurs chaînes de télévision, au Cap et en Ouganda. Nous diffusons une version radiophonique de l'émission dans le nord de l'Ouganda. D'anciennes émissions en français sont réadaptées dans les langues locales au Togo et au Cameroun. En Afrique du Sud, nous menons une campagne publicitaire très réussie sur Facebook pour attirer de nouveaux abonnés en anglais et en afrikaans, dont les résultats sont étonnants. Internet, comme je l'ai décrit précédemment avec YouTube, est également un moyen efficace pour les gens d'établir un contact avec nous dans toute l'Afrique, en particulier grâce aux smartphones et aux appareils portables. La parole de Dieu, avec son message de l'Évangile, a été diffusée sur tout le continent africain au cours de ces dernières décennies et continue de l'être aujourd'hui. Elle a porté du fruit et elle continue à en porter. J'ai donné une sermonnette au Ghana lors de ma première visite en août 1977. Vous savez à présent depuis combien de temps je viens en Afrique. Ma sermonnette était centrée sur Ésaïe 55, verset 11, que nous avons examiné plus tôt. Aujourd'hui, 45 ans plus tard, la promesse de ce verset résonne plus fort que jamais sur toute la superficie du continent africain. Mais pour l'instant, et durant ce temps spécial qu'est la fête des tabernacles, alors que nous cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve, nous pouvons nous réjouir ensemble tout en louant et glorifiant le Père Céleste pour le précieux appel qu'il a octroyé à chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que le Père accomplit en Afrique? Qu'accomplit-il pour l'Église dans le monde entier? Qu'est-ce qu'il accomplit dans votre vie et dans la mienne? Ésaïe fut inspiré pour écrire au sujet de la proclamation de l'Évangile. Au chapitre 55 et au verset 11, il fit une déclaration intéressante. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dieu continue de répandre sa parole sur tout le continent africain. Il y a beaucoup à en attendre. Une grande œuvre reste encore à accomplir. La parole de Dieu exécutera la volonté du Père. Mais permettez-moi de me focaliser sur ce verbe « exécuter » qui est utilisé dans nos traductions en français. Il s'agit du même verbe en hébreu, utilisé pour la première fois dans Genèse chapitre 1 et au verset 7. Mais là, le verbe a été traduit par « faire ». Dieu fit l'étendue. Au verset 26 de Genèse chapitre 1, nous voyons que nous devions être faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons été faits physiques. Notre Père accomplit quelque chose en nous. Pas physiquement cette fois-ci, mais spirituellement, pour que nous puissions faire partie de sa famille. Que permettons-nous à notre Père de réaliser, d'accomplir dans notre vie? Nous avons reçu des oreilles pour entendre et des yeux pour voir grâce à la puissance de son Saint-Esprit. Nous sommes à la fête des tabernacles et nous célébrons l'avènement du royaume de Dieu qui représente le futur gouvernement de Dieu ici-bas. Nous espérons que vous aurez apprécié ce petit aperçu d'un travail gigantesque et d'une opportunité que notre Père continue de mettre en place. C'est un honneur pour nous tous d'être dans l'Église de Dieu, de faire partie de son œuvre. Merci de toutes vos prières. Vous savez à présent que notre Père les exauce. Donc, une fois de plus, au nom de vos frères et sœurs de toute l'Afrique, je vous souhaite une réjouissante et joyeuse fête des tabernacles. Kwaheri, comme on dit en Swahili. Merci, Monsieur Nathan, pour cet aperçu inspirant et utile sur ce que Dieu accomplit en Afrique. Nous sommes vraiment un seul et même corps, peu importe d'où nous venons, la langue que nous parlons ou la culture à laquelle nous appartenons. Quelle merveilleuse opportunité d'en savoir un peu plus sur nos frères et sœurs en Afrique. Quand nous pensons à la signification des jours que nous observons, mes frères et sœurs, il ne faudra pas longtemps avant que ces lieux lointains ne semblent plus si lointains. Lorsque nous serons dans le royaume de Dieu en tant que rois et sacrificateurs, nous servirons les gens partout de par le monde. Il est fort probable que les membres australiens, américains, canadiens, européens ou d'autres parties du monde ne rencontrent jamais au cours de cette vie certains des frères et sœurs que nous venons d'entrevoir à l'écran. Mais nous travaillerons main dans la main sous la direction du Christ en tant que membres du royaume de Dieu. Réjouissons-nous tous ensemble de cette bonne nouvelle. Dieu appelle des hommes et des femmes du monde entier. D'ores et déjà, nous participons à cet effort d'amener de nombreux fils et filles à la gloire tout en préparant la voie devant le Fils de Dieu pour qu'il revienne établir son royaume ici-bas. Que Dieu hâte ce jour.